Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Maison des sciences de l'homme. En tant que président du directoire, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir au nom de toutes les équipes pour cet événement en partenariat avec AOC. Et je voudrais remercier Sylvain Bourmeau et son équipe dans son entier de cet événement. Je vais dire quelques mots sur la fondation, puisque la Maison des sciences de l'homme est une fondation reconnue d'utilité publique qui a pour mission, qui nous tient très à cœur, de promouvoir les sciences humaines et sociales auprès d'un large public diversifié et à l'international. Ceci inclut une mission très ample, qui n'a pas d'équivalent dans notre enseignement supérieur et de recherche, de diffusion des connaissances. Et là aussi, c'est une mission qui, peut-être que ça paraît presque routinier de le dire aujourd'hui, mais dans le contexte actuel, est plus que jamais une mission, je ne dirais pas dangereuse, mais presque. Une mission impossible, pas tout à fait, on y arrive quand même, mais donc une mission de diffusion des connaissances. Pour nous, ça passe par un très grand nombre d'actions. Je vais en citer deux qui ont un rapport avec cet événement. La première, c'est FMSH Diffusion. Nous diffusions et distribuons à peu près 70 éditeurs universitaires français, donc presse universitaire, hein, qui vont. Du Collège de France à l'ENS Lyon et à tous les éditeurs qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc, c'est une mission très importante de promotion et de diffusion, d'atteinte des librairies et des publics. Et je le dis parce que ça repose finalement sur des missions, des fonctions, des compétences qui sont parfois invisibles et que je tiens à rappeler. Il faut aller voir les libraires, les convaincre, il faut transporter tout simplement le livre jusqu'à la librairie, il faut parfois aider le lecteur à l'acte d'achat, et puis il faut aussi peut-être produire quelques éléments de teasing au préalable ou même après la sortie pour que le livre continue à exister pendant de nombreuses années. Donc c'est une mission très importante. Et puis Canalu, une autre forme de diffusion du savoir audiovisuel, et c'est pour ça que la session d'aujourd'hui sera enregistrée afin que vous-même ou d'autres publics puissent par la suite, nous essayons de faire en sorte que ces publics soient très nombreux, scolaires, universitaires, grand public, voir cet événement. C'est aussi, je voudrais simplement le rappeler sans abuser de votre temps, un soutien à la recherche scientifique et au dialogue avec la société des sciences humaines et sociales. Nous avons en cours deux programmes qui ont été initiés en début 2025, un programme sur les arts qui s'inscrit dans une certaine continuité, un programme sur les océans qui n'est pas simplement pour nous de s'accrocher à une actualité puisque nous nous engageons dans cette direction pour 5 ans en répondant à un appel de la communauté scientifique en sciences humaines et sociales, qu'il y a une nécessité de financer plus de recherches sur cette thématique et en relation avec les enjeux sociétaux ou non. J'aime bien rappeler que le fondateur de cette maison est Fernand Braudel, l'auteur de la Méditerranée. C'est aussi ça, les océans, les circulations, les échanges, l'art, etc. Autre type d'action à destination des chercheurs du monde entier, empêchés dans leur recherche, l'action Thémis, qui aujourd'hui, ça n'était pas prévisible en additionnant des chercheurs venant de pays illibéraux, mais où on peut quand même exercer son activité, mais pas en ayant accès à tous les livres ou pas en totale liberté. Eh bien, malheureusement, il faut ajouter désormais à cette longue liste les États-Unis, et donc nous verrons s'il y a réponse à cet appel. Je vous remercie tous d'être là. Tous ces livres sont passionnants. J'ai la chance de connaître certains des auteurs et j'en suis très honoré. À toi, Sylvain.
Merci. Merci, Antonin Cohen, pour ce mot d'accueil. Je suis très content qu'on puisse faire une nouvelle fois cette session d'éditer les sciences sociales, qui a beaucoup de sens pour nous dans ce moment où on doit, et tu viens de le rappeler, serrer les coudes, au fond, tous ceux qui sont partie prenante dans la valorisation des sciences humaines et sociales, à quelque étape que ce soit, depuis la recherche, depuis même avant la recherche, l'enseignement, jusqu'au lectorat qui n'est pas un lectorat nécessairement professionnel ou spécialiste, en passant par toutes ces étapes. Je ne vais pas les reprendre, mais c'est vrai qu'il y a un grand souci de cohérence et de mise en ordre de bataille, je dirais, pour un certain nombre d'acteurs dont nous faisons partie en publiant AOC. Je vais commencer justement par ça, parce que je viens de partager l'information. On a annoncé ces jours-ci la création d'un projet auquel je tiens depuis longtemps et qui voit enfin le jour, la création d'un master, d'un M2 qui s'appelle Médiatisation des sciences humaines et sociales et qu'on lance à l'Université Paris 1, qui sera co-dirigée par Sandra Logier et moi, qui est portée par le département de sciences politiques et de philosophie de cette université, mais évidemment ouvert sur l'ensemble du monde académique. L'idée, c'est de justement former à tous ces métiers dont on a plus que jamais besoin, de journalistes en SHS, mais aussi d'éditeurs, d'éditrices, de personnes qui prennent en charge la communication scientifique de ces domaines, qui prennent en charge la médiation aussi dans des institutions culturelles, qui ont des départements de recherche, qui peuvent être des musées par exemple. Voilà, donc ça va être une nouvelle aventure qui réunit des tas d'acteurs pour lesquels le livre est quand même au cœur souvent de cette question. Alors, ce qui nous a poussé à imaginer ces rencontres, éditer les sciences sociales avec la FMSH, avec Antonin et les équipes de la FMSH depuis le début, c'est l'idée d'ajouter un complément au fond et de l'orienter vraiment vers l'édition publique, du fait de ce rôle essentiel que joue la Fondation par le comptoir, par le rôle de diffusion, distribution de ces livres, parce que AOC organise régulièrement tous les trimestres des rencontres professionnelles avec des institutions culturelles, des institutions d'enseignement supérieur de recherche et des éditeurs, mais des éditeurs plutôt grand public, quelques éditeurs comme la FMSH universitaire. Mais le problème des éditeurs universitaires, ce sont souvent de petites structures et on s'était dit qu'il faudrait trouver un moyen de fédérer un petit peu à la manière dont la Fondation le fait, mais autrement encore, toutes ces initiatives et faire en sorte de parler sur ce même modèle d'ouvrage, non pas d'ouvrage à paraître comme on le fait dans ces réunions professionnelles habituelles, trimestrielles d'AOC, mais d'ouvrage pour l'essentiel, ceux d'aujourd'hui, d'ouvrage déjà paru. Même si on ne s'interdit pas d'avoir un petit peu d'avance sur certains titres. Donc vous allez le voir, l'idée c'est des présentations relativement brèves, mais suffisamment longues toutefois pour qu'on se fasse une idée de ce qu'il y a dans ces livres, qu'on ait surtout envie de les lire. Il n'y a rien de thématique, ça va partir dans tous les sens comme à chaque fois. Donc par avance, on ne sait jamais exactement la physionomie d'une rencontre, et c'est ce qui fait, je pense, aussi une grande partie de l'intérêt de ces rencontres. Voilà, je vais juste terminer en me permettant une page de publicité, puisque le rythme trimestriel, c'est aussi celui maintenant du papier pour AOC. Donc j'ai pris un numéro de ce magazine en papier qu'on a mis dans les librairies le 20 mars, mais aussi dans les kiosques, ce qui nous permet de faire des tirages qui n'ont rien à voir avec ceux auxquels on est habitué. C'est-à-dire que voilà, c'est un magazine qu'on a tiré à 20 000 exemplaires et qui réunit des articles sur l'intelligence artificielle pour ce premier numéro. Le deuxième numéro sortira pour l'été, c'est-à-dire le 21 juin. Et on s'efforcera tous les trimestres de regrouper une vingtaine de textes déjà parus en ligne de chercheuses et de chercheurs, parfois aussi d'artistes. Et ça nous semble important de se préoccuper du papier aussi, de la chaîne du papier, des relations entre le livre et la presse, pour essayer encore une fois de serrer les rangs à un moment où les SHS sont relativement malmenés pour des tas de raisons, à la fois internationales, mais pas seulement internationales. Voilà. On va commencer par une recherche internationale, une recherche qui a partie liée avec cette maison à bien des égards. C'est un livre un livre que j'ai là, qui s'appelle « Aux sources de Tristes Tropiques », qui est un livre qui vient de paraître il y a quelques semaines aux éditions de l'École des études en sciences sociales. C'est un livre collectif qui paraît sous la direction d'un anthropologue, Emmanuel Desvaux, qui lui-même a dirigé les éditions de l'EHESS pendant un certain nombre d'années, mais qui s'est entouré d'une équipe d'anthropologues, dont Fernanda Moraes, vous faites partie. Vous avez contribué à ce livre que je vais vous laisser nous présenter, qui est, bon, vous ne vous rendrez pas bien compte là, qui est vraiment un beau livre à tous les sens du terme, parce que c'est un dossier, c'est une somme considérable de documents qui permettent de comprendre au fond comment est né ce grand livre de Claude Lévi-Strauss. Et en fait, c'est un livre qui a été rendu possible par le fonds documentaire déposé par Lévi-Strauss à la Bibliothèque nationale de France. Mais je vous laisse nous en dire plus sur l'architecture du livre, la manière dont il a été conçu, puis peut-être aussi davantage sur ce sur quoi vous avez travaillé et qui concerne celle qui a eu partie liée à cette recherche dès le début, qui était l'épouse à l'époque de Lévi-Strauss.
Merci pour l'invitation. Je ne fais pas partie de l'équipe qui a édité les livres, donc je ne peux pas vous parler des origines de ces projets, mais je peux vous raconter comment j'ai commencé à travailler avec eux, et c'était à cause des archives, car je travaillais dans les archives Lévi-Strauss à la recherche des documents et des traces de cette personne qui était, pour les faits, la première épouse de Lévi-Strauss, mais qui était aussi un ethnographe des premiers moments, des premières heures, qui était Dina Dreyfus. Dina Dreyfus était l'épouse de Claude Lévi-Strauss. Ils sont partis au Brésil ensemble, et je pense qu'un des avantages, un des grandes richesses de ces livres, c'est qu'il fait sortir ces documents qui sont jusqu'à aujourd'hui inédits et qu'il donne à voir comment tout ce travail des terrains ethnographiques, mais aussi archéologiques, anthropologiques, qui a été réalisé par Claude Lévi-Strauss au Brésil, n'a pas été réalisé seul, mais a été réalisé en collaboration avec Dina. Les textes sur lesquels j'ai travaillé, c'est un texte biographique dans lequel je présente un peu le parcours de cette femme entre l'ethnographie et la philosophie, entre la France et le Brésil, entre l'Italie aussi, elle est d'origine italienne, et aussi un texte dans lequel j'analyse, ou je présente plutôt, je ne fais pas forcément une analyse, mais je présente un document qui c'est le journal des terrains de Dina Dreyfus, qui raconte un peu de l'expédition de 1938. Et la majorité des documents qui sont présentés dans les livres, qui sont analysés dans les livres, sont des documents issus de cette deuxième expédition. Juste pour dire, Claude et Dina Lévi-Strauss ont réalisé deux expéditions au Brésil, une en 1935-36, qui a été réalisée auprès des populations Cadivel et Bororo, et une deuxième expédition qui a été réalisée en 1938-1939 avec les Nambiquara et après avec d'autres populations autochtones. Mais hélas, Dina Dreyfus, elle tombe malade. Et d'ailleurs, c'est la seule mention à Dina dans Tristes Tropiques. Elle tombe malade, elle doit être retirée du terrain et renvoyée en France. Donc voilà, pour les livres en général, je pense que ce qu'il a de plus intéressant, c'est qu'il nous montre comment les archives Lévi-Strauss sont un peu bien au goût de Lévi-Strauss, une espèce de boîte à fiches, une espèce de fichier à partir duquel on peut réaliser différentes recherches, soit des génétiques littéraires, soit des linguistiques, soit d'histoire des sciences, soit d'histoire des relations entre le Brésil et la France. Je pense qu'une des grandes richesses de ce livre, c'est sa possibilité d'inviter des personnes à aller voir, à aller fouiller dans ses papiers. Il montre comment Claude Lévi-Strauss a écrit son grand livre à partir d'un processus de bricolage qui est bien à son style, dans le sens qu'il a dépouillé des vieux cahiers, il a copié et collé des textes qui avaient déjà été publiés ailleurs, et il a construit ainsi, et des textes qui étaient inédits d'ailleurs, et il a construit ainsi son ouvrage. Je ne sais pas si je peux ajouter d'autres choses, si vous avez des questions.
Donc ça veut dire au fond que ce livre permet de, de voir la préhistoire, si j'ose dire, du fameux Human Area File, qui est ce fichier extraordinaire qu'on peut encore voir au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, qui est vraiment un monument de la recherche, une manière de ranger des fiches, en fait, et qui comprend aussi, enfin, qui permet de comprendre l'anthropologie structurale de manière très bricolée et très...
Oui, je pense qu'il permet de comprendre l'anthropologie structurale et de la relier aussi à l'anthropologie diffusionniste qui était faite à l'époque et qui était en fait un lien un peu perdu entre l'anthropologie telle qu'elle était faite au Musée de l'Homme par Paul Hivet, cette histoire de l'anthropologie plus diffusionniste et l'anthropologie qui va être défendue par Lévi-Strauss après la guerre, dans le sens que ce sont des anthropologies qui sont basées par l'idée de l'archive, de l'usage des fiches comme des moyens d'avoir des nouvelles idées. Et je pense que les livres, ils montrent cela par les faits qu'ils montrent comment ces archives, qui étaient intimes et personnelles, Lévi-Strauss, mais aussi avec des papiers de sa première épouse, Dina Dreyfus, ont été vraiment la source de sa création intellectuelle, théorique et littéraire au long de sa vie. Donc, à mon avis, ce livre, il est un peu en invitation à jouer avec les documents et à lire les documents aussi à contre-poil, au-delà de du grand monument lévi-straussien, les lire aussi par les choses qui n'ont pas été dites ou qui n'ont pas été mises en avant par l'auteur.
Merci beaucoup, Fernanda Morez. Je vais prendre le... Ce que je vous propose, c'est qu'on fera une séance de questions aux auteurs, aux autrices après toutes les présentations, plutôt que d'intercaler les questions entre chaque présentation. Je vais vous demander de me rejoindre, prendre un micro si vous voulez bien. Merci. On passe cette fois du côté de la science politique avec Anne-Cécile Douillet et Carolina Guterres-Ruiz et la sociologie avec les éditions du Septentrion qui fait un travail, je dis la science politique parce que ces éditions me semblent faire un travail important dans le domaine de la science politique depuis des années maintenant en publiant notamment des livres collectifs. Et ça, c'est très important. On a déjà parlé d'un livre collectif pour commencer. C'est précisément ce que l'édition publique permet encore de faire. On sait que c'est de plus en plus difficile pour des ouvrages collectifs de trouver des éditeurs hors de l'édition scientifique. Ce qui est dommage parce qu'aujourd'hui, la recherche, elle est plus que jamais collective. Et on ne peut pas résumer tous les livres à des livres d'auteurs individuels ou d'autrices individuelles. Voilà, c'est pour ça que c'est très important de rendre possible des livres collectifs. C'est le cas de celui-ci sur la question des inégalités, qui se soucie à la fois de la mesure des inégalités, du constat autour des inégalités, mais aussi qui s'intéresse à la manière dont des politiques publiques peuvent se charger de mener la lutte, avec plus ou moins de réussite, contre les inégalités. Je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors, c'est effectivement un livre collectif et très, très collectif, parce que c'est un livre issu d'une démarche assez particulière, presque une commande que nous a faite l'Université de Lille, à notre laboratoire qui est le CERAPS, qui est certes un laboratoire de sciences politiques et de sociologie et de droit aussi.
Mais un grand laboratoire, il y a beaucoup de chercheuses.
Un grand
et
laboratoire, oui, tout à fait. Mais la demande qui nous a été faite, c'était justement de ne pas rester entre nous. Non seulement d'aller voir d'autres collègues de l'université dans les sciences sociales, mais au-delà, d'aller voir y compris des collègues en sciences et techniques, et puis surtout de sortir de l'université pour aller travailler. Alors, la commande de l'université, c'était principalement vers les collectivités territoriales, mais en tout cas, de créer, c'était le mot qui a été utilisé, un laboratoire ouvert, qu'ils ont appelé le LID, le laboratoire Inspirons Demain, rien que ça. Et donc, mais en tout cas, le nom voulait bien dire qu'il s'agissait moins de mener un travail universitaire en tant que tel, que de voir comment le travail universitaire pouvait nourrir ou raisonner avec des acteurs politiques, administratifs. Alors, pour être honnête, cette demande, elle a d'emblée suscité un peu de réticence de notre part, parce qu'on s'est dit, on fait aussi de la sociologie de l'action publique et de la sociologie des sciences, et on sait très bien qu'il ne suffit pas de dire aux acteurs politiques, écoutez-nous, pour qu'ils nous écoutent, et que la science, elle n'opère pas par sa seule force. Et donc, on se disait, et puis, du fait de l'expérience d'un certain nombre de collègues du laboratoire, on sait très bien aussi que les travaux de sciences sociales sont parfois d'ailleurs accueillis plus avec réticence qu'avec bienveillance. Parce que bah, y a forcément une dimension critique qui n'est pas toujours agréable à entendre. Mais on a quand même voulu jouer le jeu. Et donc on a réuni pendant un an toute cette catégorie d'acteurs, d'actrices. Alors pour quand même un petit peu serrer le travail, on a identifié 4 grandes thématiques. Les inégalités de logement, les inégalités environnementales, les inégalités de santé et les inégalités en matière d'éducation au regard des thématiques du laboratoire et de ce qu'on avait identifié comme étant travaillé à l'échelle de l'université. Sont venues discuter les personnes qui ont bien voulu. Alors, quand même, quelques élus, très peu, quelques agents, agentes des collectivités territoriales, pas beaucoup, et avec réserve. Et finalement, les acteurs non universitaires qui sont plus venus, bien, c'est plutôt des acteurs associatifs, militants, qui ont du coup aussi nourri cette réflexion. Donc le livre, c'est le produit en fait de toute cette réflexion, et notamment du colloque qui a eu lieu il y a à peu près un an, en mars 2024. Donc, le livre ne reprend pas les 4 thématiques que j'ai identifiées, mais est organisé en 2 parties. Une première partie, produire les inégalités, mais donc en fait, qui est une première partie qui revient, comme vous le disiez, un petit peu sur comment objectiver et expliquer les inégalités donc dans ces différents domaines que l'on a identifiés. Et une deuxième partie, lutter contre les inégalités. Et donc, deuxième partie qui développe un certain nombre d'initiatives, notamment associatives, mais aussi de certaines collectivités ou de certains collègues qui s'engagent pour lutter contre les inégalités. Et donc, le fil un petit peu directeur, parce que c'est... Il faut être honnête, c'est un ouvrage forcément un peu qui part un peu dans tous les sens, voilà, comme le sont souvent pas tous les ouvrages collectifs, mais en tout cas les actes de colloque, etc. Mais malgré tout, il me semble que s'il y a un fil directeur, ou en tout cas une réflexion en filigrane, c'est celle de savoir quel rôle les sciences sociales peuvent-elles jouer dans la lutte contre les inégalités. Alors, on n'a pas de réponse systématique, mais il me semble que ce qui transparaît à travers l'ouvrage, c'est que la contribution des sciences sociales et plus généralement des sciences, finalement, à la lutte contre les inégalités, eh bien, elle peut prendre différentes formes. On a, par exemple, une collègue, docteur en pharmacie, qui produit des outils vraiment d'aide à la décision qui permet de catégoriser différents types de territoires en fonction de leur contribution aux inégalités de santé. Et elle engage un dialogue avec les autorités locales sur la base de cet outil. Dans d'autres cas, finalement, on voit que les sciences sociales nourrissent des initiatives militantes, mais de la part d'universitaires eux-mêmes, qui, sur la base de leur expérience, vivent des inégalités et finalement s'engagent ensuite. Donc là, je pense à des collègues, plutôt d'ailleurs en informatique, en mathématiques, qui se sont nourris des sciences sociales, de l'analyse des sciences sociales sur les inégalités de genre, pour mettre en place un certain nombre d'initiatives pour lutter contre la déféminisation, parce que c'est pas ça, la déféminisation aujourd'hui des métiers, y compris des études en mathématiques et en informatique. On voit aussi comment les sciences sociales, eh bien, c'est aussi à travers la formation et les enseignements qu'elles peuvent nourrir des formes de lutte contre les inégalités, parce qu'on donne par exemple l'exemple d'étudiantes d'un de nos masters qui se sont emparées des théories de l'intersectionnalité, etc., pour faire des productions artistiques, des scénettes, et donc pour diffuser finalement non seulement des récits de vécu d'inégalité, mais à travers leur mise en scène, permet aussi par un récit en off, de montrer quels sont les mécanismes sociaux qui, finalement, sont derrière ces récits et ces expériences vécues. Parfois, les sciences sociales, elles sont aussi, elles sont aussi, en fait, mobilisées par des acteurs militants. Donc là, on donne des exemples, la mobilisation de l'ALMA à Roubaix ou la mobilisation contre l'extension de l'aéroport à Lille. Eh bien, comment ces acteurs militants s'emparent de certaines productions de sciences sociales pour nourrir non seulement leur lutte, mais aussi pour analyser leur lutte et de voir pourquoi les luttes sont plus, finalement, faciles dans certaines circonstances que d'autres. Puis on voit aussi, je terminerai là-dessus, que parfois, les sciences sociales, elles jouent un rôle beaucoup plus finalement diffus dans la lutte contre les inégalités, simplement des fois en nommant les choses. Par exemple, c'est intéressant de voir comment la catégorie d'inégalité environnementale, finalement, a pris très vite aux États-Unis, moins en France, et comment le simple fait de nommer permet de mettre à l'agenda, finalement, de nouveaux enjeux. Et les sciences sociales, parfois aussi, leur rôle consiste principalement à mettre au jour des impensés. Et que, voilà, donc c'est voilà, moins finalement à travers une contribution directe de propositions d'outils et d'aide à la décision, enfin, qui souvent sont source de beaucoup de frustration, que les sciences sociales peuvent agir. Je pense que c'est la conclusion qu'on tire de cet ouvrage. Voilà.
Très bien. En fait, merci beaucoup. Et puis, Cécile a très bien développé. Moi, j'aimerais juste ajouter qu'effectivement, l'idée de l'ouvrage, c'est aussi de donner la parole à des publics, à des personnes qui, en général, ne l'ont pas. Et c'était aussi de leur proposer un moyen différent de donner cette parole. Parce qu'en général, on a l'habitude d'avoir toujours que des écrits, donc un article, un chapitre d'ouvrage, qui n'est pas essai pour tout le monde de rédiger, parce qu'il y a des codes de l'écriture. Et donc, on a permis aussi que d'autres paroles puissent exister via des entretiens. Des entretiens, en fait, des formes de dialogue que vous pourrez voir parce qu'ils ont été retranscrits et donc encadrés par des chercheurs. Ça a permis de libérer une parole, de l'analyser dans son contexte et aussi donc, en donnant la parole aux personnes qui vivent de plus près les inégalités, questionner aussi les notions d'égalité. Quelle est l'égalité qu'on promue en France? Quelles sont les instances étatiques qui s'en chargent et comment, malgré le fait qu'on pense et qu'on veut implanter, effectivement, développer des politiques d'égalité, même si on parle d'égalité des chances et non pas d'inégalité formelle, comment est-ce qu'effectivement, tous les, finalement, ces politiques-là, même celles qui cherchent l'égalité, par tout un tas de mécanismes, permettent et développent les inégalités.
Merci beaucoup Anne-Cécile Douillet et Carolina Guterres-Ruiz. Donc vous avez toutes les deux, avec Adrien Hérault, Martine Legris et Julien Talpin, co-dirigé cet ouvrage très collectif qui a paru donc, ce mois d'avril aux presses universitaires du Septentrion. C'est les presses universitaires de Lille, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Merci à toutes les deux. Je vais demander à... Vous pouvez passer vos micros... Voilà, je vais demander à Emmanuel Fantin et Julien Tassel de me rejoindre. On passe d'une presse universitaire à une autre. Cette fois, c'est les universités de Rouen et du Havre qui ont une maison d'édition, les Pures avec un H, à ne pas confondre avec les Pures sans H qui sont les presses universitaires de Rennes. Vous avez, et c'est encore un ouvrage collectif, co-dirigé, mais ce n'est pas un hasard, un livre sur un sujet qui nous a semblé très très intéressant, dont le titre est « Quand l'enfance rencontre l'histoire, imaginaire, représentation et savoir », dont l'objet est de s'intéresser à la place, au fond, de l'histoire dans des productions culturelles qui sont destinées à la jeunesse, destinées aux enfants. En France, je précise en France parce que en feuilletant et en lisant un petit peu le livre, je me suis rendu compte à quel point il y a sans doute une spécificité française qui tient à la place de l'enseignement de l'histoire dans le cursus scolaire en France, qui n'est probablement pas la même dans d'autres pays. Mais l'histoire en France, ça tient une place importante, comme ça tient une place importante sur la grille de France Culture, par exemple. Je ne dis pas ça parce que les autres sciences humaines et sociales sont parfois un peu écrasées par l'histoire, mais quand même. Donc, du coup, l'histoire, on la retrouve aussi dans des productions qui ne sont pas des productions spécialisées et qui s'adressent aux enfants, mais qui font la part belle aussi à l'histoire. Je vous laisse présenter l'ouvrage.
Merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette invitation. Et merci aussi de soulever d'entrée de jeu la question disciplinaire, en fait, de l'histoire qui est au cœur des motivations initiales de notre ouvrage, puisque, du coup, pour raconter un peu la genèse de l'ouvrage, en fait, Julien et moi, on était spécialistes, justement, des médiations atypiques de l'histoire, donc non institutionnelle, hors de la discipline, et qui souvent, pour le dire très clairement, dans la hiérarchie des valeurs socioculturelles ou des productions socioculturelles, sont très basses, contrairement à l'histoire institutionnelle, mais qui néanmoins peuplent notre quotidien. Donc moi, par exemple, j'avais beaucoup travaillé sur la manière dont le monde marchand instrumentalise en fait constamment l'histoire, notamment par le biais de la nostalgie ou ce type de fantasme, mais pas que. Hein. Julien a travaillé beaucoup sur la prétention historiographique des organisations et des institutions. Donc on avait en commun des questionnements épistémologiques assez clairs et assez forts autour de finalement cette prétention à dire l'histoire, ces savoirs historiques qui circulent dans la culture populaire, dans la culture médiatique, dans les discours politiques aussi très souvent, qui du coup nous questionnaient par leur omniprésence et aussi par, alors justement, parfois leur prétention à dire quelque chose de l'histoire tout en relevant très clairement des imaginaires et du fantasme, et inversement, parfois des productions qui nous semblaient très. Qui semblaient être presque historiographiques et qui pour autant n'avaient aucune prétention et qui semblaient relever ou se présenter comme plutôt du champ de la mémoire. Et donc on s'est retrouvés autour de ce sujet-là, et dans nos réflexions, on s'est dit finalement l'enfance, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment de travaux qui rassemblent ces questionnements autour de la présence de l'histoire dans la culture populaire enfantine. Or, si vous avez des enfants, si vous rentrez dans leur chambre, si vous faites comme Julien et moi, on a commencé comme ça à aller errer dans les librairies pour enfants, à la grande récré ou autre, enfin voilà, observer vraiment les jouets, les jeux, la littérature, les dessins animés, enfin toute la culture médiatique et la culture marchande à destination des enfants. Mais on s'aperçoit que ce savoir historique, qu'on a un peu de peine à désigner, parce que relève-t-il du passé, relève-t-il souvent du passé, du folklore, de l'imaginaire, en tout cas, il a quelque chose, ça fait partie des questionnements qu'on a dans l'ouvrage, quelque chose qui relèverait d'une substance historique qui nous questionne et qui est omniprésente. Donc il y avait peu de réflexions, enfin peu de travaux en sciences humaines et sociales vraiment qui rassemblaient des chercheurs sur cette question, avec quand même, il faut le souligner, des travaux un peu fondateurs, par exemple Marc Ferraud, donc un historien mais au début des années 80 qui avait initié cette démarche. Il avait écrit un ouvrage qui s'appelle Comment est-ce qu'on raconte l'histoire aux enfants dans le monde entier. Donc là, bon, c'est un peu anachronique, mais de le dire comme ça, mais il avait une perspective de décolonisation des savoirs, justement, dans la manière dont on raconte l'histoire.
C'est un historien soucieux de
voilà,
la valorisation de la recherche.
Oui, et puis soucieux alors lui, c'est pareil, il déviait, il n'était pas simplement dans l'enseignement disciplinaire de l'histoire, mais il entamait vraiment une réflexion, parce que l'enfance, c'est ça a été montré aussi, démontré par plein d'autres chercheurs, c'est quand même un moment crucial dans l'apprentissage de l'histoire, dans la formation du citoyen, dans finalement tous ces savoirs consubstantiels à l'histoire et la mémoire qui font ensuite, qui constituent un socle collectif de ce qu'on imagine être parfois l'idée de nation, parfois l'idée de collectif. Et puis, avant de te laisser la parole, Julien, il y a un texte qui a été fondateur pour nous aussi, qui nous a beaucoup inspirés, qui est un texte de Roland Barthes qui s'appelle « Réflexion sur un manuel » et dans lequel il réfléchit à justement la place que la littérature occupe dans la culture une fois qu'on quitte le lycée. Alors bon, pour cette assemblée, probablement que la littérature, puisque je m'adresse des chercheurs et des éditeurs, si j'ai bien compris, donc évidemment je suppose que la littérature occupe une partie de votre quotidien, mais Roland Barthes s'interroge et se dit finalement pour tous les gens qui ne sont pas familiers de la littérature c'est l'enseignement de la littérature, et donc du coup lui s'interroge et se dit qu'est-ce que ça devient la littérature, ça devient un nom dans un mot croisé, un nom d'auteur dans un mot croisé, ça devient le nom comme ça d'un bicentenaire de naissance de je ne sais quel auteur qui circule dans un journal, etc. Et il essaie de questionner ce que cette grammaire commune de la littérature fait à la littérature. Et en fait, voilà, on s'est aussi inspiré de cette démarche et on a essayé de proposer un peu la même chose autour de la question de l'histoire.
Et donc, ce qu'on a évité de faire, enfin, ce qu'on ne souhaitait pas en fait étudier pour cet ouvrage, c'était les médiations scolaires de l'histoire, parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup étudié par les sciences de l'éducation, par l'historiographie, etc. Il y a beaucoup de savoirs produits là-dessus. Et nous, on s'est interrogé justement sur ce qui n'entrait pas dans cette catégorie-là. Et bah, l'ouvrage est très interdisciplinaire parce que ça a beaucoup intéressé des collègues dans des disciplines très variées, en histoire évidemment, hein, mais aussi en histoire de l'art, en littérature, avec des recherches sur la littérature jeunesse, en sciences de l'information et de la communication, ce qui est notre discipline. Donc c'est très éclectique à la fois dans les regards qui sont portés, dans les méthodologies qui sont employées, et aussi dans les objets en fait que les chercheurs, les chercheuses regardent, parce que et c'est ça qui est intéressant justement de cet éclectisme, c'est-à-dire qu'à travers cet ouvrage, on essaie de montrer, de faire voir toute la richesse en fait de ces médiations qu'on interroge peu habituellement. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve par exemple des textes sur les lanternes magiques du 19e siècle, hein, donc les, vous savez, c'est ces lampes qui projettent en fait sur une espèce de vitrail justement des histoires, et donc parmi ces histoires, il y a effectivement une prétention à montrer un savoir historique, mais un savoir historique qui touche parfois, qui frotte en fait avec la fiction, hein. On pense au début de la recherche du temps perdu quand on dit ça en fait. Voilà. Qu'est-ce que d'autres chercheurs ont abordé ? Bah, les BD, en fait, la manière dont les bandes dessinées vont effectivement figurer, être une source de médiation historique, la manière dont la littérature jeunesse aussi s'empare de tout ça, mais aussi des petits objets qui sont des objets plus étonnants, les vignettes dans les chocolats Poulain, par exemple, qui sont pourtant une manière d'appréhender l'histoire. Voilà, ce genre de choses sont effectivement ce qui est étudié dans cet ouvrage. Donc on voit aussi qu'il y a toute une dimension de culture visuelle en fait qui est très présente là-dedans. Les périodes sont très variées aussi, et un des enjeux de l'ouvrage, c'est de montrer comment c'est difficile parfois, comment raconter l'histoire, mais c'est aussi se confronter à des périodes historiques difficiles. Or, quand on s'adresse à des enfants, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on édulcore ? Est-ce qu'on fait des ellipses ? Est-ce qu'on passe sous silence ? Et donc, on a par exemple une recherche d'une chercheuse en histoire qui a travaillé sur justement la narration de la Shoah, qu'elle confronte à l'idée de happy end qu'on trouve beaucoup dans la littérature jeunesse. Donc comment elle a un corpus d'études, elle regarde comment tout ça s'agence en fait précisément. Évidemment, les thématiques de l'esclavage sont aussi des thématiques très présentes dans la littérature jeunesse qui s'est beaucoup renouvelée aussi sur toutes ces thématiques-là. Donc voilà, comment tout ça est travaillé et comment une certaine forme de savoir passe à travers ces fictions, voilà ce qu'on a essayé de regarder. Dernier point, qui est aussi une originalité de l'ouvrage, c'est qu'on a, nous aussi, beaucoup interrogé, on a cherché, alors c'est pas tout à fait les mêmes personnes, mais on a aussi donné la parole à des professionnels de ces médiations, des auteurs de littérature jeunesse, des auteurs de BD, notamment Vincent Dugommier, qui est l'auteur des Enfants de la Résistance, une série de BD qui a beaucoup de succès en fait et qui est très utilisée notamment dans les écoles pour expliquer cette période-là. Et puis des artistes qui travaillent sur l'histoire en la reconstruisant avec des Playmobil, et puis la directrice du centre du musée de la déportation à Lyon par exemple. Donc voilà, des acteurs de cette forme de médiation qui sont très variés et qui donne un panorama aussi sur ces enjeux-là d'un autre point de vue. Donc on a fait des entretiens là-dessus. Voilà.
Merci beaucoup pour cette présentation.
Merci beaucoup.
Donc, peut-être vous pouvez les poser là. Ouais. Je vais demander à Amandine Andrushiv de me rejoindre. Là, on a entendu des gens, anthropologues, politistes, sociologues, spécialistes en sciences de l'information et de la communication, mais aussi avec des livres qui comprennent des historiens, des littéraires. Pas encore de philosophes, ce qui est votre cas. Et puis là, vous venez nous parler, non pas d'un livre collectif, parce que c'est aussi important qu'il y ait des livres plus classiques, j'allais dire, en tous les cas, un livre, ce qui est une forme du livre académique, un livre tiré d'une thèse, j'ai bien compris. Pour ça aussi, les presses universitaires sont précieuses, pouvoir faire en sorte que des thèses trouvent une vie éditoriale dans des formes, j'imagine aussi, peut-être raccourcies par rapport à la version originale. Mais c'est le cas de votre livre qui porte sur le végétarisme dans une perspective philosophique. Je vous laisse le présenter.
Merci beaucoup. Merci déjà pour l'invitation à AOC, la Fondation de Maison des Sciences de l'Homme. Merci aux Épures, donc les éditions Presse Universitaire de Reims, qui vont publier cet ouvrage en juin 2025. Voilà, il est presque pareil. Alors oui, en effet, pour la petite anecdote, l'ouvrage que je viens de vous présenter aujourd'hui, il est issu d'une partie de ma thèse. La troisième partie, après évidemment, ça n'est pas la thèse telle quelle, et c'est un travail qui a été remanié. Et en fait, pour la petite anecdote, la thèse s'appelait « Le végétarisme en question de la centralité des marges ». Et l'ouvrage qui va bientôt sortir s'appelle différemment, en fait, on passe du singulier au pluriel, puisque finalement, il va s'appeler « Végétarisme pluriel des prises carnistes ». Et c'est intéressant parce que justement, nous qui faisons de la recherche, ça démontre que voilà, la thèse a été soutenue en décembre 2023, la publication est en juin 2025, mais il y a quand même un travail en fait, d'actualisation, de recherche, de valorisation et d'affinage en fait, et de nuanciation. Et donc ce qui fait que ça nous permet d'être toujours au plus près de la réalité sociale et philosophique d'un phénomène. Donc là, le fait de passer le végétarisme à végétarisme pluriel, ça nous permet de mettre en valeur les différences de pratiques, de motivation, les degrés d'engagement différents aussi des individus. Et c'est reconnaître aussi que le végétarisme ou la consommation de viande, ça n'est pas quelque chose qui est monolithique et c'est quelque chose qui a aussi en son sein des hybridations culturelles. Donc c'était intéressant aussi de pouvoir mettre ça en valeur. Peut-être brièvement une présentation un peu plus générale. Ce livre prend place dans un contexte que l'on connaît, hein, l'anthropocène et ses enjeux de plus en plus prégnants. Et finalement, moi, j'ai souhaité proposer une approche plus philosophique des pratiques végétariennes pour tenter d'examiner comment, face à ces enjeux, elles peuvent nous aider à repenser notre rapport au monde de manière générale et aux autres vivants de manière spécifique. Donc finalement, j'ai essayé de me pencher sur une question souvent marginalisée. Quel rôle peuvent jouer les pratiques végétariennes alors même que les rapports scientifiques démontrent qu'il faut diminuer quand même notre consommation de viande? Quel rôle peuvent-elles jouer? Et finalement, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est les récits. Les récits et les imaginaires. Et le fil rouge de cet ouvrage, c'est la place que l'on fait aux récits majoritaires et puis aux récits alternatifs, aux récits minoritaires, aux récits un peu invisibilisés. Et donc, je me suis dit, voilà, comment ces récits peuvent être à la fois des freins ou des leviers à cette prise en compte de nos enjeux. Voilà, peut-être, je ne sais pas si je peux présenter peut-être les trois parties. Oui ? Alors on y va. Donc l'ouvrage se comporte trois grandes parties finalement, toujours autour de ce fil rouge qui est la place que l'on donne au récit. Hein. Donc la première partie s'intitule « Fabuler le monde ». Et « Fabuler le monde », c'est vraiment s'intéresser au pouvoir de la fiction, au pouvoir des histoires qu'on raconte et des histoires qu'on se raconte, et finalement voir comment nos récits façonnent notre perception du réel. Et comment ils peuvent aussi nous en éloigner. Et dans cette partie-là, il y a une grande place qui est faite aux récits technoscientifiques, hein, notamment au travers de la désextinction ou du transanimalisme. Et puis en parallèle, il y a face à ces chimères en cours de réalisation, en cours d'exécution, il y a une mise en parallèle des récits littéraires. Et là, je travaille autour de 3-4 ouvrages assez récents qui font des récits de ce que c'est que la consommation de viande, mais du point de vue de la fiction. Et finalement, comment est-ce que ces récits-là nous aident à porter un regard peut-être un peu plus lucide sur des choses que l'on souhaiterait peut-être ne pas voir. Et donc, Fabuler le monde, c'est un point de départ essentiel pour repenser notre rapport à la viande, parce que finalement, nos sociétés sont prises un peu dans un paradoxe, on appelle le paradoxe de la viande, mais on aime tous la viande, et elle fait partie de nos traditions, c'est quelque chose que l'on considère comme normal, naturel et nécessaire, et pourtant, on est de plus en plus conscient de la souffrance animale, humaine, que cela provoque, et de l'impact environnemental de sa production. Et du coup, j'ai investigué un peu du côté de la littérature et de la science-fiction. Je suis allée un peu plus loin pour voir un petit peu qu'est-ce que nous proposaient ces laboratoires de pensée, ces expériences de pensée-là, pour essayer d'imaginer des futurs ou des récits où les animaux ne seraient pas juste des marchandises et où les pratiques végétariennes auraient un rôle intéressant. Et le problème, le constat, c'est que notre imaginaire est quand même assez limité et qu'on manque finalement d'histoires alternatives, de récits qui nous montrent un monde avec peut-être moins de viande, pas sans viande, mais moins de viande, et un monde où il est finalement urgent de refaire place à d'autres voies. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, elle nous amène vraiment plutôt sur... on a parlé tout à l'heure de décolonisation, c'est intéressant, mais sur une forme de décolonisation des imaginaires aussi. Donc j'emprunte à Castoriadis. Et moi, je parle plutôt de déviandisation de nos imaginaires qui sont absolument partout, dans la publicité, les films, etc. Et donc cette deuxième partie fait plutôt place à des philosophes, plutôt des discours philosophiques, mais des philosophes des années 70, enfin qui ont beaucoup écrit dans les années 70. Je pense à Illich, Castoriadis, Gortz, et qui ont beaucoup travaillé sur la manière dont on décolonise nos imaginaires pour essayer de changer nos modes de vie à la racine. Parce qu'il est assez flagrant de voir que les solutions qui sont proposées actuellement, notamment technoscientifiques, sont des solutions qui sont plutôt, je pense à la viande artificielle par exemple, des solutions qui s'attaquent aux conséquences et pas vraiment aux causes radicales des problématiques. Donc ça, c'est la deuxième partie qui vraiment enjoint à opérer un travail de déconstruction de nos croyances alimentaires en fait. Et puis la troisième partie, j'ai encore un petit peu le temps, qui est vraiment, là aussi, d'autres types de récits. Elle s'appelle « Entrée en hybridation ». Et cette troisième partie, elle est plus focalisée sur des autrices féministes et écoféministes et philosophes. Et en fait, je pense à Donna Haraway ou à Val Plumwood, par exemple. Et l'idée, c'est de refaire place à des récits écoféministes pour rétablir un lien entre les vivants et les pensées hors d'une vision anthropocentrique ou dans une sphère de domination, en fait. Et les récits écoféministes sont ultra intéressants pour ça parce qu'ils nous permettent de déconstruire les dualismes nature-culture, animaux-humains, sans pour autant tomber dans une forme d'indistinction, une fusion. Il y a une différenciation, mais qu'est-ce que chacun apporte à l'autre? Et donc, les récits écoféministes sont très intéressants de ce point de vue-là, et j'ai essayé de travailler davantage sur cela, avec une réflexion autour du langage, des termes que l'on emploie, des mots que l'on utilise et comment finalement ils nous séparent des autres espèces et de la valeur intrinsèque qu'ils ont, au profit d'une valeur purement instrumentale. Voilà, donc en fait cet ouvrage c'est vraiment un travail autour des récits, enfin j'ai souhaité en tout cas explorer les récits fictionnels, les récits du réel, les récits du politique aussi, les récits philosophiques et écoféministes. Dans la manière dont nous appréhendons la consommation de viande et les pratiques végétariennes. Il y a peut-être une originalité, ou en tout cas quelque chose qui a été remarqué et qui m'a été plusieurs fois souligné, c'est que il y a une approche qui est un petit peu interdisciplinaire quand même. C'est un travail de philosophie, mais je fais place aussi à des travaux de sociologue, à des travaux de la littérature, des études de genre aussi, hein, qui se croisent. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment un même objet peut être perçu de différents angles et comment on les fait dialoguer. Après, c'est pas un guide pratique, c'est pas un essai militant, néanmoins. J'ai vraiment voulu proposer une réflexion approfondie, nuancée, complexe, mais je ne vais pas vous mentir, c'est quand même un livre qui est un peu engagé et qui, finalement, il émane vraiment de ce travail une conviction profonde, un peu existentielle, qu'il va falloir sans doute entrer en déprise carniste, un petit peu comme on entre en révolution, pour essayer de changer de paradigme et de créer un monde un petit peu plus juste. Voilà, je vais me taire.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, Amandine Ondoshi. Donc, c'est les presses universitaires de Reims que je n'avais pas cité tout
de
à l'heure. voilà. Et merci. Je vais demander à Niven Guillou de me rejoindre. On revient vers l'anthropologie. Et parfois, il y a des commémorations dans l'actualité. 2025, c'est les 50 ans d'un certain nombre de choses, mais parmi ces choses très importantes, c'est les 50 ans du génocide au Cambodge, et sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps. Et là, vous publiez un livre qui est le résultat d'une enquête, d'une recherche, sur, non pas sur le génocide lui-même, mais sur les traces qu'il a laissées dans la société cambodgienne, et plus exactement dans une région du pays. Et ça vous semblait très important parce que, au fond, la manière dont les habitants du pays principaux concernés ont fait avec la mémoire de cet événement traumatique est très différente de la manière dont nous, loin, nous avons fait avec. Et pas seulement parce qu'on était loin, mais aussi pour des raisons qui sont des raisons davantage culturelles, en quelque sorte. Je vous laisse présenter votre livre qui paraît à la Société d'Ethnologie Je ne vais pas me tromper. C'est ça, c'est le nom de la maison. Société,
ça, Société d'énergie à Nanterre.
À Nanterre, voilà, c'est ça que j'oubliais.
Alors, je suis ethnologue. Bon, je vais employer ethnologue et anthropologue de façon indifférenciée, mais de plus en plus, là, je me sens plutôt me dire ethnologue. Je travaille depuis longtemps, je suis spécialiste de la société cambodgienne. Avant cela, j'avais travaillé auprès des réfugiés cambodgiens en France. Et donc, j'ai travaillé de nombreuses années. Et après 20 ans, je me suis dit... je ne peux pas ne pas essayer de me saisir de la question du génocide Khmer Rouge. J'avais travaillé sur beaucoup de sujets, des questions de santé, de maladies, de VIH, de tuberculose. J'étais plutôt spécialiste d'anthropologie de la santé, des questions de système de nomination, enfin voilà, beaucoup de choses. Bon, évidemment, toutes ces recherches étaient traversées par une fracture profonde, mais que je ne prenais pas à bras le corps, voilà. À bras-le-corps parce que aussi l'ethnologie ne nous... c'était pas facile en tant qu'anthropologue de s'en saisir. Un beau jour, je me suis dit, voilà, je suis anthropologue, je vais essayer de me saisir de cette question en tant qu'anthropologue. Alors, on avait déjà... Donc, c'était au début des années... C'était en 2005, à peu près. Alors, il y a tout un volet sur lequel je ne vais pas revenir, pour lequel... À un moment, il est impossible de parler de quelque chose, et à un moment, il y a des fenêtres qui font qu'on peut commencer à penser à des choses. Je parle en tant qu'anthropologue, encore une fois. On avait des travaux d'historiens, on avait des témoignages, on avait des biographies, des autobiographies. Je veux dire, on sait ce qu'il s'est passé au Cambodge entre 1975 et 1979, et je ne savais pas ce que moi je pouvais en dire. Donc j'ai fait ce que font tous les ethnologues quand ils cherchent à inscrire un nouveau travail. J'ai essayé de tout oublier. J'ai oublié le mot mémoire collective, j'ai oublié le mot mémoire, j'ai oublié le mot génocide, j'ai oublié le mot traumatisme. J'ai cherché un endroit au Cambodge où je pourrais mener une recherche. Je me suis intégrée dans un village, ça on sait faire au moins, en cherchant plutôt une unité sociale qui avait du sens, une unité sociale cohérente, dans laquelle je n'ai rien demandé. Voilà, j'ai passé mon temps à écouter. Je me suis assise, je me suis intégrée, donc au début je dormais à 10 km de là, puis peu à peu j'ai habité dans une famille, puis j'ai construit ma propre maison, bref, je me suis intégrée comme on s'intègre, comme on devient un étranger intime, parfois, souvent, comme on, je crois que c'était Condominas qui appelait comme cela le travail des ethnologues quand ils cherchent à s'intégrer dans un milieu pour essayer de comprendre de l'intérieur, du point de vue des gens. J'avais aussi beaucoup l'impression qu'on parlait beaucoup à la place des Cambodgiens, qu'on plaquait beaucoup de choses. Et donc, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qui est important dans les gens, pour les gens en 2005, c'est-à-dire 30 ans carrément. Donc, le génocide termine en 79, donc on était en 2005. Qu'est-ce qui est important pour eux, à quoi ils rêvent, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils parlent, de quoi ils ne parlent pas, de quoi ils se souviennent, qu'est-ce qu'ils oublient, qu'est-ce qu'ils ont envie d'oublier. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à perdre mon temps, comme dit Paul Rabineau, c'est la première chose à faire quand on est ethnologue. J'ai fait de la slow science plutôt que de la fast science et j'ai passé du temps à écouter. Et ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il y a des mémoires qui sont en fait inaudibles, des mémoires qui sont... dominé aussi, c'est un milieu paysan, c'est un milieu ce qui constitue 80% du Cambodge, 80% du Cambodge est rural aujourd'hui et constitué de villages. Donc ce qui ressort, c'est que les gens ont fait énormément d'efforts pour reconstruire un monde en fait, mais ce sont des efforts qui sont passés inaperçus parce que ce sont des efforts qui prennent d'autres voies que les nôtres, on va dire. D'abord, la voie qui est la plus évidente peut-être pour tous, c'est le traitement des défunts, évidemment. Le génocide Khmer Rouge a fait plus d'un million 700 000 victimes. Une grande partie des efforts des Cambodgiens. Alors, ce sont des catégories qu'on appelle éthiques. Hein. Ce sont mes catégories à moi, ce ne sont pas les catégories locales. Mais je dirais, de mon point de vue, après avoir fait ce travail, qu'ils ont passé beaucoup de temps à soigner les défunts. Et contrairement à ce qu'on fait dans un tribunal, c'est-à-dire ce qu'a fait le tribunal des Khmer Rouges qui s'est mis en place à peu près à la même époque à Phnom Penh, au lieu de considérer une catégorie à part qui serait la catégorie des victimes, tout le travail un peu des Cambodgiens, des Cambodgiennes, des Khmer, moi j'ai travaillé en milieu Khmer, hein, a consisté surtout à briser la catégorie de victime et à réintégrer ces défunts dans le cycle des renaissances, on est en milieu bouddhiste, et à faire du bien à ces défunts qui ne sont pas des défunts de mal mort comme on les conçoit habituellement en ethnologie, mais plutôt des morts faibles, des morts à soigner, des morts dont on a pitié, des morts dont il faut s'occuper. Alors, il se trouve qu'il existe au Cambodge une immense cérémonie annuelle, la cérémonie annuelle des défunts, qui existe bien avant le régime Khmer Rouge, qui est très, très ancienne, et qui consiste en un immense rendez-vous annuel, justement, entre les défunts et les vivants. Et chaque catégorie de défunts, depuis ce qu'on appelle les prêtres, c'est-à-dire les âmes errantes, qui sont des âmes de bas niveau karmique, on va dire, qui ont un karma très très bas, et donc qui vont devoir progresser dans le cycle de renaissance, jusqu'aux ancêtres familiaux, c'est-à-dire ceux dont on prend soin en connaissant leur nom, etc. Chacune de ces catégories de défunts, je veux dire, les victimes du régime Khmer Rouge sont réintégrées dans ces catégories locales qui donnent sens finalement, qui redonnent le sens au monde détruit. Donc voilà, c'était un premier ensemble de d'efforts très très intenses en fait, faits par les Cambodgiens, sachant que cette cérémonie qui est bouddhiste et qui a été interdite sous le régime pro-vietnamien communiste qui a suivi le régime Khmer Rouge, et donc elle a été autorisée à nouveau au tout début des années 1990, à un moment où j'étais au Cambodge, et où j'ai vraiment senti, alors là c'est de l'ordre du ressenti, une espèce de soulagement général au fait de pouvoir reprendre ce travail de soin, en fait. Et puis, évidemment, il y a des tas d'autres... Alors, une chose qui est très importante à dire aussi, c'est que ces victimes n'ont jamais été restituées aux familles. C'est un cas quasiment unique au monde. C'est-à-dire que l'État a toujours considéré, jusqu'à aujourd'hui, qu'il demeurait propriétaire de ces restes humains comme des preuves du génocide. Voilà, dans un contexte, bon... Il serait long à expliquer dans un contexte géopolitique très variable où ce régime n'était pas reconnu, sa légitimité n'était pas assurée. Et donc, elle a toujours considéré qu'il était propriétaire, en quelque sorte, de ces restes humains. Et donc, l'ensemble de la société a dû faire sans ces restes. Alors même qu'on considère nous-mêmes habituellement que s'appuyer sur les dépouilles mortelles constitue une nécessité absolue pour pouvoir faire son deuil, etc. Et puis d'autres rituels ont été pratiqués, plus ou moins inventés, on s'est appuyé sur de l'existant. Comme par exemple les gens qui habitaient près des fosses communes. Dans certains cas, un dialogue s'est instauré avec ces fosses, alors sur la base de la façon dont les Cambodgiens conçoivent l'univers, qui est un univers animiste aussi, pas simplement bouddhiste, mais... Finalement, les défunts sont des êtres comme les autres, poursuivent leur carrière comme les êtres humains. Et le monde est ainsi, nous sommes entourés de différents êtres, de différents types d'êtres qui sont ontologiquement similaires à nous. Certaines de ces fosses sont donc, les restes humains sont donc restés là, ce sont des gens qui ont été... exécutées, et donc il a fallu vivre à côté de ces fosses aussi, et dans certains cas, elles ont été considérées au terme d'une sorte d'opération rituelle, d'opération intellectuelle aussi, comme des esprits tutélaires de territoire. Donc c'est un peu comme si ces forces négatives, il existe un certain nombre de forces qui sont bien, bien connues au Cambodge, des forces, des énergies, disons, du sol qui sont présentes. Et donc ces forces, dans certains cas, ont été en quelque sorte propitiées et ont été transformées en forces positives protectrices des habitants qui vivent à proximité. Donc voilà tout un ensemble de choses qui font que peut-être, il me semble que tout cet effort qui ne dit pas son nom, qui ne s'exprime pas par des mots, qui ne s'exprime pas par le témoignage, etc., contribue d'une part à structurer la relation entre vivants et défunts pour qu'elle ne soit pas invasive. J'ai un peu travaillé avec une psychiatre sur ces questions et la plupart de ces patients malades, c'était des gens qui étaient envahis en fait. Donc voilà une sorte de relation structurée où les vivants et les morts sont en contact à certains moments mais se détachent à d'autres moments. Et puis aussi la transformation rituelle, par des rituels assez complexes, sophistiqués, de forces négatives en forces positives, protectrices.
Merci beaucoup. Donc, puissance des lieux, présence des morts, c'est le titre du livre à la Société d'ethnologie. Il a paru là, au mois d'avril. Merci beaucoup. On va passer à... si vous voulez bien me rejoindre, Lucas Gréco, à votre livre qui, lui, ne paraîtra qu'au mois de juin à la Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous êtes linguiste.
Oui.
Donc c'est une discipline qu'on n'a pas encore convoquée ce soir. Et c'est comme linguiste que vous avez travaillé la question du genre. Et vous avez choisi de travailler sur le genre comme linguiste en choisissant des objets très différent, très hétéroclite en fait, ouais. De prime abord.
Tout à fait. Alors en fait, il s'agit d'un ouvrage d'un point de vue qui est rédigé de la part d'un linguiste. C'est une incursion linguistique dans les études de genre à partir d'une multiplicité de corpora que j'ai moi-même récolté. J'ai une méthodologie ethnographique, je me considère en fait comme un ethnographe des pratiques langagières. Donc j'ai travaillé dans un service des maternités, dans un hôpital où j'ai filmé moi-même des échographies prénatales ayant lieu au premier, deuxième et troisième trimestre. Et déjà, cette analyse de la façon dont on parle du fœtus m'a amené à interroger les frontières du genre qui vont bien au-delà non seulement du langage, hein, parce que ce n'est pas seulement la parole qui nous fait, des êtres sexués. Hein, lorsque l'échographiste nous dit c'est un garçon ou c'est une fille, mais aussi donc la technologie, la vision, etc. Mais c'est aussi à partir d'un débat théorique qui m'a beaucoup inspiré, qui est né en fait au début des années 2000 aux États-Unis, entre d'une part l'approche postmoderne de Butler qui confère au langage un rôle primordial dans les procédés de construction et de déconstruction du genre, et aussi un mouvement, un courant philosophique en études culturelles et de genre qui s'appelle la mouvance néomatérielle, qui prend une autre voie, qui est celle de donner de l'importance à d'autres matérialités sémiotiques, comme les corps, la technologie, la terre, les conditions atmosphériques, etc., qui, selon les tenants de ce courant, jouent un rôle important dans la construction de genre. Ma position est une position médiane, c'est-à-dire que je considère que aussi la critique qui est faite à Butler pose quelques problèmes puisque le langage est lui-même aussi une matérialité, c'est une matérialité sonore, corporelle. Et donc ma position médiane consiste à dire, à proposer en fait une perspective multimatérielle, donc holistique, dans la prise en compte de toutes ces différentes ressources sémiotiques dans la construction du genre.
C'est matériel aussi.
Voilà. Alors, donc ça, c'est la question principale du bouquin. Je réponds donc à cette question donc par trois chemins. Un chemin théorique, il s'agit donc d'une première partie où il y a une lecture critique, effectivement, à la fois des approches queer-butlériennes mais aussi des approches néomatérielles, avec donc la proposition d'une perspective multimatérielle, holistique, qui s'inspire à son tour aussi des travaux de Latour, entre autres. Et puis, il y a aussi un schéma analytique, puisque, alors là, c'est vraiment la partie strictement analytique, où j'analyse avec mes instruments de linguiste la façon dont le genre se construit par cette multiplicité des matérialités sémiotiques dans des contextes très différents, comme par exemple les annonces de sexe dans les échographies prénatales, mais aussi les pratiques langagières au sein de mouvements éco-transféministes en Italie, et aussi les interactions entre des membres de la fachosphère française lorsqu'ils parlent à la fois de leur masculinité, du besoin de manger de la viande, en réponse notamment à ce tweet de Sandrine Rousseau, où avait posé justement l'accent sur l'aspect androcentré, viriliste de la pratique du barbecue. Et enfin, une troisième partie plus interventionniste, plus politique, dans laquelle, en fait, j'offre une relecture des trois vagues du féminisme au prisme, justement, de cette fausse dichotomie entre matière et langage, en proposant une quatrième vague qui est plutôt une vague donc de la multimodalité, de la multimatérialité, un féminisme donc biocentrique, non plus anthropocentrique. Un exemple peut-être, donc j'ai fait allusion donc à ce travail que j'ai fait sur les échographies prénatales. Donc il y a une partie du bouquin que je consacre en fait au mode de présentation, de représentation du fœtus, à la fois dans les échographies prénatales, où effectivement le fœtus est présenté comme un être un peu étrange, aux confins entre l'humain et le non-humain, parfois même comme un être monstrueux, un être un peu illisible, indéchiffrable, et que je comparais avec l'analyse qui est faite de l'image du fœtus dans les campagnes anti-avortement en Italie, en France, où au contraire, le fœtus est humanisé, est présenté comme un être humain, intentionnel, parlant, etc. Donc il me semble très important de faire ce type d'analyse comparative parce que il faut à la fois s'approprier en fait les thèmes de la vie et de l'humain et non pas les laisser dans la main de la droite qui en fait un argument pour condamner les pratiques d'avortement. Et on sait très bien qu'en Italie et aux États-Unis, ce sont des pratiques qui sont largement entravées par le gouvernement d'extrême droite, mais aussi pour que, effectivement, ce thème de l'humain et du non-humain rentre de plein pied donc, dans les études de genre. Il s'agit donc, en somme, comme le dit le nom de la collection dans laquelle j'ai publié le bouquin, d'une intervention, c'est la collection intervention qui est à la fois scientifique et politique.
Merci Luca Greco, une collection co-dirigée par Sandra Logier et je n'ai pas retenu le nom de l'autre personne. Merci beaucoup, donc un livre qui paraît aux éditions de la FMSH au mois de juin et on va terminer cette présentation avec un historien, non pardon, avec un historien, avec de l'histoire.
Avec un géographe.
Géographe qui a travaillé sur des migrations, des migrations d'Italiens, mais quand on pense migration d'Italiens en France, on est tout de suite, peut-être d'où ma confusion, plongé dans les années 30 ou les années 20, où beaucoup d'Italiens sont venus s'installer en France. Mais en fait, vous, ce qui vous a intéressé, ce sont des migrations d'Italiens très contemporaines, en fait, d'Italiens qui sont venus s'installer en France dans les années 2000, en fait.
Exactement.
C'est un livre qui paraît aux éditions de l'École normale supérieure de Lyon, qui est apparu là. Enfin,
en mars, le 20 mars, voilà. 2025.
Je vous laisse nous présenter.
Oui, alors votre confusion avec l'historien est assez emblématique parce qu'effectivement, moi, j'ai travaillé sur la reprise de l'immigration italienne, dans le sillage de la crise financière qui a marqué la péninsule, mais aussi toute l'Europe du Sud. On observe le même phénomène au Portugal, en Grèce, en Espagne dans les mêmes années, dans les années 2010, dans toute la décennie 2010. C'est une enquête que on a commencé en fait collectivement, même si le livre est un livre personnel que j'ai prolongé de manière personnelle, avec Camille Schmoll de l'HESS, Ettore Recchi, un sociologue italien mais de Sciences Po Paris, et Adrien Dubux de Sorbonne Université.
Camille Schmoll, dont je précise, puisqu'on est sur une réunion sur l'édition, qui est désormais co-directrice des éditions
de l'HESS. Voilà. En fait, comme on avait, moi j'ai fait ma thèse sur l'Italie en géographie urbaine sur Naples, donc j'avais des attaches avec l'Italie, et on se rendait compte dans notre réseau social, etc., qu'il y avait quelque chose qui se passait, qu'il y avait un mouvement d'émigration de la péninsule, et qui était très invisible médiatiquement en France, comme l'ensemble des migrations intra-européennes en France. Alors que l'INSEE, c'est une migration très difficile à mesurer puisqu'elle est à l'intérieur de l'espace Schengen et qu'elle laisse peu de traces dans la statistique publique. Donc il faut prendre des voies de traverse, utiliser par exemple les sources des registres de population italiens, donc des sources italiennes,
portugaises. Parce qu'en France, on n'a pas de bureau de population.
Exactement. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 30% en fait, des flux d'entrée annuels hein, qui sont européens. Donc il y a une invisibilisation statistique, mais aussi liée au regard social, qui est en fait que ces migrations européennes perçues comme blanches, même si elles ne le sont pas entièrement, parce qu'il y a des deuxièmes générations, des Italiens racisés, etc., espagnols également, etc., qui viennent en France, elles sont perçues comme blanches, comme migration modèle, elles ont été construites historiquement comme migration modèle, et donc elles ne sont pas stigmatisées, elles ne posent pas problème, etc., et elles se déroulent de manière assez invisible. Bon. Alors, on avait commencé une étude, du coup, en faisant des questionnaires sur Internet, des entretiens, etc., pour essayer de voir le profil de ces nouveaux Italiens et Italiennes de Paris. On s'est centré surtout sur les jeunes adultes, parce que ce qui caractérise cette nouvelle vague migratoire par rapport aux vagues historiques de migration italienne en France, c'est qu'elle est beaucoup plus qualifiée. Elle concerne aussi des retraités assez aisés, mais aussi des jeunes diplômés, qui issus plutôt des classes moyennes menacées de précarisation en Italie. Souvent, ils sont dans une situation sociale moins avantageuse que celle de leurs parents qui ont bénéficié des années du miracle, etc., en Italie, du miracle économique. Et donc, ils migrent vers l'Allemagne, c'est la principale destination, avec le Royaume-Uni avant le Brexit, c'était la principale destination de ces nouvelles migrations. Mais au cours de ces recherches collectives, il y a quelque chose qui a émergé auquel on ne s'attendait pas. C'est le rôle de la famille. On faisait des entretiens avec des jeunes Italiens, chercheurs au CNRS ou cadres dans des entreprises privées en France. Et puis, il y avait le canapé qui était réaménagé pour accueillir la grand-mère de leurs jeunes enfants. Ils nous disaient, je me rappelle une formule d'un enquêté qui disait « Oui, on importe les grands-parents quand on en a besoin. » Et là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des systèmes de mobilité pour un rhume, une maladie du jeune enfant qu'on ne peut pas mettre en crèche, et hop, les grands-parents arrivent à Paris. Et moi qui avais travaillé sur le rôle de la famille dans l'accès au logement, mais à l'échelle locale urbaine en Italie, je me suis dit, ben là, c'est intéressant, il y a ce système du welfare familial italien qui est transnationalisé, importé en France et hybridé avec la protection sociale française. Et du coup, dans le cadre de mon HDR, parce que c'est l'adaptation de mon HDR, j'ai décidé de creuser cette question de la famille dans ces nouvelles migrations italiennes, de la famille donc transnationale, du rôle de la parenté, parce que, alors il y a une littérature énorme hein, sur la famille transnationale, mais qui se focalise surtout sur la famille au sens de groupe domestique, de ménage, c'est-à-dire des mères séparées de leurs enfants en bas âge, avec d'ailleurs des biais de genre souvent, c'est plus les mères qui sont étudiées, quand elles sont loin de leurs enfants, etc. Mais par contre, là, dans cette nouvelle migration italienne, c'est pas, on ne quitte pas ses enfants en bas âge, on quitte plutôt ses parents âgés en Italie, ou ses frères et sœurs adultes. Ça affecte la famille au sens de famille étendue, de parenté. Parenté qui est largement invisibilisée aussi dans nos sociétés occidentales, alors qu'elle joue encore un rôle assez important, et notamment dans les sociétés d'Europe du Sud, qui sont fondées sur un welfare familial, le soin des parents âgés, etc., repose beaucoup sur la proximité résidentielle dans la famille, l'entraide, etc. Donc voilà, alors j'ai fait le livre, porte en fait sur trois monographies, ce que j'ai appelé des monographies familiales multisituées, c'est-à-dire qu'en fait, en utilisant le questionnaire qu'on avait fait, j'ai sélectionné trois familles, trois ménages, alors soit des couples italiens, soit des couples mixtes, de jeunes adultes, arrivé dans les années 2010 et originaire de Naples. Pourquoi j'ai fait le choix originaire de Naples? Parce que c'était une ville que je connaissais bien, où j'avais des contacts et je savais que je voulais aller enquêter aussi sur leur famille là-bas. J'ai reconstitué avec eux l'usage de leur parenté dans leur migration. Comment est-ce qu'ils mobilisent leur famille pour, dans leur vie quotidienne à Paris? Et je me suis appuyé sur le cadre conceptuel de Florence Weber sur la parenté pratique. C'est-à-dire, je ne suis pas parti d'une conception normative de la famille, je suis à partir de l'observation vraiment de leur vie quotidienne, des fêtes de famille, des modes de communication sur WhatsApp. Par exemple, j'ai pas mal utilisé les groupes WhatsApp parce qu'ils ont beaucoup de, ils ont différents groupes WhatsApp familiaux qu'ils utilisent pour des usages différents. Ça visibilisait un peu la composition de leur famille. Et donc, j'ai été aussi à Naples, à Rome, à Londres, rencontrer des membres de leur famille, mais de leur famille pratique, mobilisée dans la migration, par exemple, pour l'achat d'appartements à Paris, qui est mobilisé pour prendre soin des enfants en France, pour, au contraire, s'organiser pour retourner en Italie pour s'occuper de ses parents âgés, etc. Donc j'ai fait 3 monographies familiales multisituées, et le livre est fondé sur ces 3 monographies familiales, donc c'est une méthode très ethnographique, mais de l'ethnographie multisituée, comme l'ont développé les études migratoires. Ce n'est pas un livre que je classerais en géographie, mais plutôt en études migratoires de manière assez interdisciplinaire. Une grosse bibliothèque sociologique, anthropologique, etc. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui. Alors, bon, par exemple, j'ai, ce qui était assez intéressant, c'était la circulation d'argent dans ces familles avec... en fait, c'est beaucoup les familles. L'argent circule de l'Italie vers la France. Hein, y a pas de renvoi de remise au pays. Ou alors, on rembourse, mais de manière différente. En fait, plus tard, en prenant soin des parents, etc. Mais elle est différée dans le temps. Beaucoup de ces jeunes Italiens accédaient assez facilement à la propriété à Paris grâce à la mobilisation des primes de retraite, par exemple, des parents, ou de la vente de biens en Italie. Les Italiens sont les premiers propriétaires immobiliers étrangers à Paris. Donc voilà, il y a aussi cette dimension importante. Et puis, j'ai analysé l'hybridation, le système que j'ai appelé la figure des flying grandmothers, donc les circulations de grand-mères, qui avait été déjà observé dans la diaspora caribéenne, par exemple, ou dans les migrations latino-américaines, mais qu'on n'avait pas tellement étudié dans les migrations intra-européennes. Et parce que vraiment, c'était un phénomène très important. C'est-à-dire que quand je me suis focalisé sur la naissance des enfants, qui est un moment, effectivement, où la parenté rejoue un rôle important, et où il y avait des systèmes vraiment très réguliers, hein, d'organisation, parfois avec les deux familles des deux conjoints, qui s'alternent, pour venir s'occuper des enfants en cas de problème à la crèche, etc. Et avec un réaménagement des appartements, parce qu'ils sont logés dans les familles, dans les appartements parisiens, qui sont réaménagés pour ça, et avec une organisation de l'argent, par exemple, souvent, les appartements italiens à Naples, qui connaît une explosion du tourisme dans les mêmes années, sont loués sur Airbnb pour payer les circulations entre France et Italie. Et alors, surtout, l'idée qu'il y a derrière, c'est celle d'un type de famille transnationale assez spécifique à la libre circulation intra-Schengen. Parce qu'effectivement, ce n'est possible que parce qu'il n'y a pas de visa, il y a des lignes low cost, il y a une intégration européenne importante. Et donc, c'est pour ça que je parle de privilège de parenté et de migration privilégiée pour caractériser cette migration. Non pas parce qu'elle concerne des personnes de classe supérieure dans leur pays d'origine, mais parce qu'elle bénéficie de régimes juridiques de mobilité extrêmement avantageux. Ils ont la possibilité de s'appuyer sur leur famille de manière quotidienne, en fait, là où dans les autres migrations, c'est beaucoup plus compliqué. Les visas de visite familiale sont accordés au compte-gouttes et de plus en plus, de manière beaucoup plus restrictive pour les migrants extra-Schengen. Et donc voilà, c'est aussi une réflexion sur les inégalités migratoires dans laquelle la famille joue un rôle majeur, en fait, dans cette inégalisation des régimes de mobilité contemporains.
Merci beaucoup. Le livre, le voilà, Thomas Pfirsch, il est paru déjà donc aux éditions de l'ENS.